Du coup, j'arrivais même pas à... Enfin, j'arrivais pas à... Non, mais je suis lente, moi, c'est ça que vous comprenez pas. C'est que vous me dites, oui, là, t'as compris ci, t'as compris ça. Non, mais moi, je mets... voilà, j'ai compris les trucs. Ouh, 4 ans plus tard, j'ai recollé. J'ai dit, ah, mais c'est pour ça que... voilà. Mais
non, on va venir après. Rien, un temps de gestation, de maturation.
Ouais, là. Bah oui, oui. Non, mais c'est voir. Pour ça que je voulais que, absolument que je disais... Mais là, tu as
on
pensé...
On a besoin d'une histoire, oui, mais... d'un découpage.
Mais
de...
oui, mais voilà. Mais
d'un
moi,
élément perturbateur,
ouais,
en fait.
Mais, voilà, mais moi, je...
Ta vie ressemble pas assez à un scénario de film conventionnel. Je suis désolé.
La transition, elle arrive
après. Ah bah
ouais,
mais quoi, les climax, c'est... voilà, il y en a pas, quoi. C'est, ah ouais, d'accord, le rapprochement entre la séquence 1 et la séquence...
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30.
J'étais fatigué. J'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh non, tout de suite, bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, prostitue. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B qui vous propose aujourd'hui la deuxième partie de son entretien avec Bénédicte Pagnot, la réalisatrice des Lendemains, qui est sortie le 17 avril à Rennes. Rappelez donc que cet entretien a été réalisé avec Vincent Cadoret, merci à lui, et que vous pouvez réécouter d'ores et déjà l'intégralité, notamment la première partie, sur le site de Canal B. Bonne écoute.
La valse des Lendemains, c'est-à-dire c'est une des musiques du film, une des musiques de mon film, sachant que là j'ai voulu faire entendre une version, donc c'est Médéric Collignon qui a fait la musique originale du film, et qu'il avait proposé deux versions de cette valse que j'aime beaucoup. Et il y a une version que instrumentale qui est celle qui est dans le film. Et il y a une version dans laquelle il chante, lui. Et là, c'était une envie de faire entendre justement la version avec la voix de Médéric Collignon.
On va revenir sur... Enfin, on va enfin parler des Lendemains
que t'as, qui a mis du temps avant d'exister vraiment, et puis peut-être déjà du coup expliquer à quel moment t'as commencé justement à écrire l'objet, puisque donc il y a 8 ans je crois à peu près entre le
même
début 10,
selon mon producteur même.
Oui oui, ils aiment bien les producteurs.
Ouais, c'est ça. Ah,
oh, c'était tellement dur de faire ça. Bon, 10 ans, on va dire 10 ans pour faire plaisir à tout le monde. Donc, avant que le film soit vraiment. Qui va sortir sur les écrans, donc ce 17 avril.
Bah, le truc, c'est que moi, c'était un projet. Il y avait des bouts de ce projet qui étaient dans ma tête depuis vraiment. Peut-être 20 ans ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des bouts de choses qui sont.
On est à 20 ans maintenant.
Non, mais je pense que non, mais en fait, je le date pas trop, mais il y a un peu une scène un peu fondatrice qui finalement n'existe pas dans le film, qui est que j'avais eu une envie à un moment de j'avais une envie de scène, parce qu'autant je fonctionne pas en plan, mais je fonctionne en scène, et donc je m'étais dit ouais, j'aimerais bien faire un truc, ce serait deux filles, deux amies d'enfance. Et il y en a une, elle est devenue caissière au Super U, et l'autre, elle a pris une toute autre direction. Et elles sont toutes les deux en train de partager une clope devant une vitrine, enfin devant la vitrine du Super U. Et celle qui est devenue caissière, en fait, c'est son vrai prénom qui est écrit sur son badge de caissière, alors que l'autre ne la connaît que, elle sait qu'elle a ce vrai prénom, mais en même temps, pour elle, elle s'est toujours appelée Nanou, et que tout d'un coup, pouf, ce soit écrit son vrai prénom sur ce badge, c'est vraiment le signe justement de la dure réalité du monde. Donc ça, cette scène, je me la trimballe depuis je sais pas combien de décennies. Voilà, et puis après, moi je crois que j'avais une vraie nécessité de raconter cette période de la vie que tout le monde ne vit pas, mais que moi j'ai vécu, et que je pense quand même que beaucoup de gens vivent, c'est-à-dire ce moment justement où on se rend compte que le monde, il se limite pas à son lotissement et à son papa, sa maman, sa copine d'enfance et son petit copain, mais que finalement, tout ça est beaucoup plus vaste, qu'il y a des tas de milieux sociaux, des tas de gens qui vivent d'autres choses. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'avais pas du tout vécu en allant à la fac, mais que j'avais vécu justement en allant au lycée, parce que j'étais dans un petit bled et que tout d'un coup, je me suis retrouvée à aller au lycée pour faire du cinéma et de l'audiovisuel, et que le lycée, c'était un gros lycée bourgeois de centre-ville à Rouen, et que moi, je venais pas du tout de là, et que j'ai vécu 3 années de lycée complètement épouvantables, à pas comprendre justement qui c'était ces gens et pourquoi ils étaient pas comme là d'où je venais. Et je pense que j'avais vraiment besoin de revenir là-dessus. Et puis le troisième truc, c'est que donc, je l'ai un peu dit tout à l'heure, j'avais activement participé à un mouvement de chômeurs en 1998, et que ça a été un moment super important dans ma vie, parce que je me suis coltinée vraiment super concrètement les questions du collectif, les questions du militantisme, les questions des appartenances politiques, ou alors des non-appartenances politiques, mais qui finalement en étaient quand même, mais sauf que mais qui en sont d'autres. Et que tout ça avait été un moment important. Bref, tout ce bazar a fait que dans ma tête, je m'étais dit, cette fille là de la vitrine, là, celle qui n'est pas devenue caissière, et justement, elle, à un moment, elle va être dans un truc politique, elle va le vivre concrètement. Donc finalement, j'avais été inventée toute cette histoire d'Audrey, là. Et voilà, mais c'était quelque part dans mon cerveau, et puis c'est tout. Donc j'ai rencontré Gilles Padovani pour mon premier documentaire. Et en fait, quand on est revenu d'un rendez-vous qu'on avait eu à France 3 Sud, où France 3 Sud nous avait dit « c'est ok, moi j'ai envie de... » Voilà, je coproduis le film. En fait, Gilles et moi, on a fait tout le trajet de retour en voiture entre Toulouse et Rennes. Et puis, tout d'un coup, je lui ai dit « moi j'ai un long métrage dans la tête ». Il m'a dit « ouais, c'est quoi ?» Enfin non, à l'époque, j'en avais 2 d'ailleurs. Et donc, il m'a dit « vas-y, raconte ». Et donc, je lui ai raconté les 2. Et il m'a dit, ouais, moi je préfère celui de la fille, là, qui. Et il m'a dit, youpi, on va faire un long métrage.
Qui correspond un peu au projet de Mille et Une Films, finalement, qui sont toujours un peu justement sur cette histoire de passage, de,
oui, oui, c'est ce qu'il
de
dit,
prise hein. de conscience. Mmh, de... Mmh,
oui, oui, oui. Enfin, c'est vrai que moi, je ne l'avais pas, voilà, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que là, les fois où je me suis retrouvée avec Gilles, justement, pour répondre à des questions et tout, c'est vrai que c'est ce qu'il dit, quoi, que lui, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, et effectivement, c'est dans toute sa filmographie de producteur, hein, c'est très présent.
T'as pas
quoi,
la même
ça.
Vision du...
Non, mais j'en sais rien, parce que moi, ça, c'est pas... Enfin, je l'ai pas analysé. Voilà, moi, j'étais très contente de travailler avec lui, j'étais très contente qu'on ait ce projet de documentaire ensemble, on s'entendait bien, ça se passait bien. Tout d'un coup, je lui raconte ce film, il me dit, bon, youpi, on fait un long-métrage. Enfin, après, moi, j'ai pas réfléchi, justement... à sa filmographie, oui, tu vois. Et puis c'est vrai qu'en même temps, donc ça, on était en voilà 2003, je crois. Et là, moi, j'avais juste fait un court-métrage de fiction, du coup. Et je lui ai dit, waouh, c'est un peu tôt, là. C'est pour faire directement un long-métrage de fiction. Et il m'a dit, bah écoute, autant qu'on s'y mette maintenant, parce que ça risque d'être un peu long. Et il m'a dit, mais de toute façon, aussi bien toi que moi, on va faire d'autres choses. Voilà, tu feras d'autres films, et moi aussi. Et... Mais en même temps, on n'a qu'à se dire que... Que voilà, qu'on fait ça, quoi. Et du coup, ça a démarré comme ça, ce qui était assez, assez formidable, parce que ça veut dire que là, ouais, c'est un luxe, quoi. C'est-à-dire que chaque ligne que j'ai pu écrire sur ce projet, je savais déjà que lui, il était, voilà, il avait envie du film, quoi.
Parce que tu m'as dit, malgré tout, que tu ne te limitais pas à l'écriture, c'est-à-dire que tu écrivais ce que tu avais envie d'écrire et t'étais pas dans l'écriture à dans des pensées de production, justement, de est-ce que c'est faisable en termes de production, tout le bordel.
Ah oui, oui, moi j'ai enfin, oui, c'est rigolo parce que récemment là, on a fait Gilles et moi, on a répondu à une interview, et puis à un moment j'ai dit mais ce qui était formidable, c'est que voilà, en même temps, on était tous les deux dans une espèce de naïveté qui fait que sinon on serait jamais embarqué là-dedans. Et là, Gilles, il a dit, mais moi, j'ai jamais été dans cette naïveté-là, quoi. Moi, je crois que j'avais besoin d'être là-dedans, mais lui, il a jamais été là-dedans. Mais je l'ai appris vraiment, là, il y a 15 jours, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, pour lui,
t'as
ça...
T'as quand même eu des contretemps, parce que t'avais des envies de mise en scène qui n'ont pas été faisables, quand même.
Oui, 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 mais par exemple, là, quand il disait ça l'autre jour... Enfin, moi, j'ai trouvé ça m'a assez émue, je dois dire. C'est parce que quand il a dit, mais moi, j'ai jamais été naïf, j'ai compris quand même à quel point, moi, il m'a laissé écrire tout ce que je voulais. Ça veut dire que lui, il avait toujours cette question de, justement, faut que ça devienne un long métrage, faut qu'on puisse le faire. Alors que moi, j'étais pas dans cette question-là. Mais ça veut dire aussi que jamais il a manigancé des trucs pour que j'enlève des choses, parce que il disait putain mais ça va coûter une blinde, et donc je vais jamais y arriver. Enfin, et par exemple, lui,
sachant que le film se termine en plus par des scènes d'action.
Oui, non, mais voilà, c'est ça. Par exemple, il a dit ça. Lui, il m'a dit, mais moi, que dès qu'il avait lu ce truc de voiture, d'autoroute à l'envers, de machin, il se disait, oh putain, ça va pas être facile. Mais je veux dire, il, en même temps, il trouvait que voilà, que c'était le film, quoi, et que c'était à lui de se débrouiller pour que ce soit faisable, quoi. Donc il a jamais essayé. Alors je pense qu'il y a des producteurs qui feraient ça, quoi, c'est-à-dire qui
est-ce que c'est vraiment indispensable que tu aies une scène sur autoroute?
Bah oui, c'est-à-dire que dans un truc un peu calculateur, à se dire, mais comme ça va pas du tout être évident d'avoir les moyens de faire ça, est-ce qu'on ferait pas mieux dès maintenant de voilà, de rendre tout ça un peu moins coûteux, pour justement pour être sûr que ce soit faisable. Lui, je pense qu'il aimait vraiment ce projet, quoi. Il aimait le parcours de cette fille, il aimait ce que ça racontait, et donc il a toujours c'était ça qui comptait, quoi.
Baccalauréat général, baccalauréat technologique.
Oh, je l'aime, putain, je l'aime. Oh,
once you bit twice,
ça n'intéresse pas à la politique?
Bah non.
Moi j'aime bien les tracts, tu vois, j'ai besoin du contact humain.
Je
suis licencié.
Tu crois que c'est le moment d'avoir des goûts de luxe?
Tu m'évites tout, je délire.
Bon.
Pourquoi tu fais ça si tu veux, Patrick?
Pour que les gens se posent des questions.
En fait, moi, je me souviens, c'est pendant les vacances de Noël où j'ai commencé justement à écrire j'ai écrit un traitement, en fait, tout d'un coup, j'ai mis sur papier, donc j'ai pas écrit ça sous forme de continuité dialoguée, mais j'ai écrit un traitement, donc ça faisait, je sais pas, 20 pages, Audrey fait ci, Audrey fait ça, c'était que factuel. Là, ça, c'était assez génial aussi, parce que du coup, à partir de ça, Gilles s'est dit, mais... je pense même qu'il m'a demandé d'écrire ça pour dire que ce serait chouette qu'on ait une aide au développement de la région Bretagne, parce que ça veut dire que tu pourrais écrire un peu tranquillement. Donc on a déposé le traitement, et effectivement on a eu une aide au développement, donc je sais plus les montants, mais c'est quand même bien, quoi. Et ce qui fait que moi, il a quand même pu me payer pour que je puisse écrire la première version du scénario, quoi, ce qui était quand même le luxe absolu. Bon, après il pouvait plus me payer pour les autres, mais c'était déjà assez génial, quoi. Alors moi j'avais fait un court métrage et je pense donc un documentaire, et je pouvais écrire tranquillement mon truc sans être complètement dans des problématiques justement de pognon et tout ça, donc c'était assez chouette, quoi.
Et par rapport à ces problématiques de pognon, donc évidemment c'est le produit entièrement à Rennes, ça, enfin en tout cas par donc Milieu de Film qui est basé à Rennes. Et c'est quoi les spécificités pour une boîte de production rennaise de monter un long métrage?
C'est vrai que c'est important de signaler.
Longs métrages qui sont faits. Enfin, Marie-Elia sur Microclimat, elle est en Bretagne. Paris-Brest, c'est en Bretagne. Enfin,
Mais comme tu l'as dit, en général, quand quelqu'un parle, oui, je veux faire des films, à Paris. Mais tout doit se passer à Paris. Alors que non, du coup, là, c'est un peu une preuve justement que, par exemple, dans une ville comme Rennes, il y a la possibilité justement de monter un long métrage, même si justement la production a été assez compliquée.
Non, mais c'est vrai. Du coup, donc il y a eu, il y a eu 4 ans d'écriture lente, parce que je suis lente. Et aussi parce que justement j'ai voulu faire d'autres films, et que de toute façon personne allait me donner 3 millions là directement pour faire ce film, mais de toute façon moi
c'est le coût du film,
ça. Non, enfin c'était je dis 3 millions parce qu'à un moment on l'a budgété et que effectivement c'était un peu plus de 3 millions là, le vrai coût du film, mais moi, de toute façon, je me sentais pas du tout d'attaque pour faire un long métrage. Donc, c'est vrai que j'écrivais ça tranquillement, je faisais d'autres choses. C'était pas. Pour moi, c'était pas urgent, quoi. Enfin, puis l'écriture, je me pose des milliards de questions. Enfin, donc, tout ça, c'est long. Donc, j'écris 2 versions toute seule. Après, j'avais plus envie d'être toute seule. Puis Gilles, ça faisait pas mal de temps qu'il me disait, mais tu veux pas écrire avec quelqu'un. Donc, pour la 3e version. J'ai commencé à travailler avec une co-scénariste, Emmanuelle Mouille, avec qui je me suis très bien entendue, avec qui c'était super. Et donc, on a écrit ensemble une 3e version du scénario. Et là, on est arrivé à quelque chose. Moi, ma première version, genre, il y avait 300 séquences. Enfin, c'était tout qui passait, quoi. Je veux dire, je réglais mes comptes avec tout. Il y avait même un tournage de film dans le film, comme ça me permettait de raconter comment c'est les tournages. Il y avait un premier assistant qui s'envoyait en l'air avec toutes les nanas, enfin tout y passait, quoi. C'était du délire absolu. Donc justement,
j'ai fait
plaisir. Ouais, et donc la co-scénariste, elle a dit bon, il y a peut-être des trucs en trop et tout, et donc il y a eu un gros travail d'élagage, enfin avec lequel moi j'étais d'accord, hein. J'étais tout à fait consciente que c'était too much là. Et voilà, on est arrivé à une version qui nous plaisait. Et Gilles, lui, voulait tenter justement l'avance sur recette du CNC, ce qui est, justement, sur des premiers longs métrages, c'est quand même, parce que c'est beaucoup d'argent et que c'est un super... si t'as ça, normalement, c'est assez formidable. Et c'est vrai qu'on a eu l'avance sur recette du premier coup. Et quasi à l'unanimité, quoi. Donc ça, c'était un peu fou. Ça, c'était en 2008. Là, on a un peu halluciné parce que franchement, quand même, on s'attendait pas à ça.
Et puis là, tu te dis, c'est parti, c'est bon.
Là, on était les rois du pétrole, nous. Hein. C'était waouh, là, c'est bon, les millions vont couler à flot.
Les guichets vont s'ouvrir.
Ah ouais, c'était ok, quoi. Et pas du tout. Vraiment pas du tout.
C'est le guichet principal, on peut dire, l'avance sur recette.
Ouais.
On va démarcher les télés en général.
Voilà,
c'est
les
ça,
télés, les régions, après les Sofica et tout ça. Et, Et du coup, aussi, pour démarcher la télé, les télés, c'est bien d'avoir un distributeur, notamment pour aller voir Canal+, parce que Canal+, ne n'aide que des films qui vont forcément sortir au cinéma, donc il faut avoir l'engagement d'un distributeur. Et alors là, voilà, ça a été terrible, quoi. Parce que, les distributeurs, ils voulaient même pas lire le scénario. Ils disaient, mais vous êtes qui, là ? Vous nous prenez pour qui ? On va quand même pas lire votre scénario. Si, c'est votre boulot, mais non.
Mais par rapport à quoi, ils disaient ça ?
Et là, je pense qu'il y a, deux trucs. Il y a le fait que, là, il y a le clivage Paris-Provence qui joue, ça c'est sûr. Le fait qu'on n'ait pas les mêmes réseaux et tout ça. Et puis, on a découvert aussi que, justement, l'étiquette avant sur recette, qui, je pense, a été un sésame magnifique pendant longtemps, c'est plus du tout le cas. Parce que qui dit avant sur recette, dit film d'auteur méga chiant qui fait 3 entrées, quoi.
Alors, en parlant de film d'auteur méga chiant, ouais. Il est peut-être temps de présenter, justement, rapidement. les lendemains.
Ouais. Tu vois, regarde ce que ça fait sur ma bière.
C'est du slime. Donc, à savoir que donc la bière de Bénédicte Pagnot a explosé sur la table, comme du slime pendant Ghostbusters.
Et c'est le
coup d'insulte de Étienne Cadoret.
Transition la plus douteuse.
Donc, un résumé des lendemains. Donc, ça raconte le parcours d'une jeune fille qui s'appelle Audrey et qui vient d'un milieu. Modeste plus, on va dire, je ne sais pas comment dire ça, qui habite dans un lotissement, au milieu de rien, et qui a son bac et qui part à la fac. Normalement, l'idée, c'était qu'elle partait à la fac avec sa grande copine d'enfance, Nanou, parce qu'elles allaient avoir leur bac toutes les deux, elles allaient prendre un appart, ça allait être super, elles allaient aller en sociaux, elles allaient s'éclater. Et puis, cette nouille de Nanou n'a pas son bac. Et donc, finalement, Audrey part à la fac toute seule. Et là, elle rencontre des gens différents. Elle est en colocation avec une nana qui n'est pas du tout du même milieu qu'elle et qui est engagée, rousse. Qui est dans un syndicat rousse, tout à fait.
Non, mais c'est important.
Mais papa, non. Ouais. C'est pas une vraie rousse, en plus. Hein. Elle s'est fait teindre les cheveux pour le tournage. Et là, en fait, Julia, donc sa coloc, est dans un syndicat étudiant. Elle traîne avec des gens qui sont dans des questionnements politiques et qui sont dans le militantisme. Et du coup, Audrey découvre à la fois d'autres milieux, la fac, ça peut être un endroit un peu difficile quand on sort du lycée. Et puis d'autres gens, puis des questions politiques qui n'intéressent pas du tout. Voilà. Puis il lui arrive différentes choses. Et puis finalement, à un moment, un peu par hasard, elle rencontre des gens qui sont dans un squat politique et dans lequel elle décide de s'installer. Et finalement, c'est là qu'elle se sent bien. Et elle découvre la radicalité.
Et elle va crac, 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 craquer.
Ça, c'est ta version.
La première fois, on ne savait pas. Faut dire qu'on n'avait jamais vu ça. La première fois, c'est toujours comme ça. On se dit, une fois, ça compte pas. La deuxième fois, on se rappelle pas. Tu sais, c'est déjà bien loin tout ça. La deuxième fois, c'est souvent comme ça. On se dit qu'on oubliera. La troisième fois, c'est plus délicat. On se dit que le monde est peut-être fait comme ça après tout. Tu sais ce qu'on se dit la troisième fois, non ? Jamais 200, etc. La quatrième fois, alors là, on en fait tout un plat. On se dit plus jamais ça, non ? La quatrième fois, on débat, on agite les bras. On se dit, ce sera la dernière fois. Ouais, c'est fini tout ça. La cinquième fois, putain, on n'y croit pas. On l'avait pas vu venir, celle-là, hein ? À croire qu'on dormait déjà, en tout cas on se réveille avec une sale gueule de bois. La sixième fois, nous y voilà. On n'ose plus trop se dire quoi que ce soit, hein. Faut dire qu'on s'est déjà dit tellement n'importe quoi, tellement de fois. Oui mais cette fois, tu vois, cette fois, ce sera sans moi, c'est comme ça. Compte pas sur moi pour rester planté là, sûrement pas, non. Cette fois, je sais comment tout ça finira. J'ai mis du temps, mais mais cette fois tu me la feras pas. Non, cette fois tu tourneras cette fois ta langue de rat dans ta serviette de gravat avant de me dire quoi que ce soit. Épargne-moi ton cinéma, ton charabia, ta mauvaise foi. Surtout, t'avises pas de me dire ce qui est bon pour moi. Non, pas cette fois. D'ailleurs cette fois je n'écoute même pas les couches, je m'en bats. Essaye même pas de me vendre ta salade, j'achète pas tes promesses, j'y crois pas. Ta façon de voir le monde me file de l'eczéma. Ta bouillie bouche, mon estomac digère pas. Cette fois tu m'excuseras mais je t'excuse pas. Arrête de te prendre pour le roi, j'ai pas voté pour toi. Mais faut pas n'engage que moi, les tiens nous foutent dans le sale gras. À chaque fois je pute ça basta, j'ai plus besoin de toi. Tu vois dans quel état tu me fais sortir de moi. Je me reconnais pas, j'étais pas comme ça. Mais regarde bien cette fois ce qui sort du bois. C'est pas l'agneau mais le loup, t'as en face de toi. Si tu continues à faire comme si t'entendais pas. Si tu changes pas le blabla, tu vas t'en bouffer les doigts. Pas seulement ça, tu vas te bouffer mon front bas. Et mes deux poings serrés au bout de mes bras. Recule d'un pas, reste pas sur ma voie. S'il faut en passer par là, s'il faut rentrer dans le tas. Ça me dérange pas plus que ça, je vais m'occuper de ton cas. J'ai tellement plus rien à moi, j'ai même plus peur de toi. Perds tes fracas, cette fois la vie dit non. Ce sera pas moi, non pas cette fois. Cette fois.
Alors là, ce qu'on a entendu, c'est un morceau qui s'appelle « Cette fois ». Et c'est Singe qui a fait ce morceau. Alors là, il y a toute une histoire. Mais donc déjà, il faut savoir que c'est Thibaut Boulet, animateur à Canal B, qui m'a fait connaître ce morceau. C'est un morceau que j'ai connu parce que justement, je cherchais plein de morceaux de musique pour un court-métrage que j'ai fait qui s'appelait « La pluie et le beau temps ». Et du coup, Thibaut Boulet m'avait donné plein de musique qui était dansante et qui pouvait marcher pour mon film. Et j'ai découvert ce morceau, donc qui s'appelle « Cette fois ». Et que finalement, j'ai pas utilisé pour « La pluie et le beau temps ». Et que avec les gens de mon équipe, on n'arrêtait pas d'écouter pendant le tournage des lendemains. Et à un moment, au montage, ça a été évident qu'il fallait mettre sur ce morceau dans le squat. Au moment où il joue aux fléchettes, sur un jeu de fléchettes où c'est que des bulletins de vote, en fait, des affiches pour les votes qui sont collées sur un mur et sur lesquelles il s'amuse à tirer aux fléchettes. Voilà. Et en plus, derrière Singe se cache un réalisateur qui s'appelle Arnaud Ladagnous. Et j'adore ce morceau. Et j'adore Arnaud Ladagnous.
Pourquoi ? Parce que cette fois, tu vois, cette fois, ce sera sans moi, c'est comme ça. Compte pas sur moi pour rester planté là, sûrement pas non. Cette fois, je sais comment tout ça finira. J'ai mis bien trop de temps, mais cette fois, tu la feras pas. Non, cette fois, tu tourneras cette fois ta langue de rat dans ta sale gueule de gravat avant de me dire quoi que ce soit. Épargne-moi ton charabia, ton cinéma, ta mauvaise foi, surtout. T'avises plus de me dire ce qui est bon pour moi.
Et donc, une fois que les financeurs daignent enfin lire le scénario, justement, qu'est-ce qui vous renvoie par rapport à cette lecture là.
Bah, déjà donc les distributeurs, je l'ai dit, c'était compliqué. Après on avait quand même tenté un peu les télés et tout ça, mais là sur les télés France 3 notamment, France 3 nationale, c'est la question du casting, c'est-à-dire voilà, vous avez qui comme nom? Ben on n'en a pas et on n'en aura pas. Mais donc ouais, c'est à chaque fois, c'est la question du casting qui revient. Et nous, à la fois, on dit que le casting il est pas fait, donc que voilà, que c'est une question qui est prématurée. Donc on répond ça pour arrondir un peu les angles. Mais en même temps, moi j'ai toujours été très claire sur le fait que je voulais pas tourner avec des comédiens connus. Qui ont déjà des habitudes de tournage, qui ont déjà des comportements de tournage, et que moi je voulais autre chose que ça. Donc les télés, ça marche pas.
En plus, sur ton tournage, en plus avec une équipe un peu plus réduite, c'est-à-dire que t'es loin justement du tournage, de tes premiers tournages en tant qu'assistante, avec où t'étais assistante des acteurs, fallait chouchouter. Attends, on est très loin, une équipe réduite.
Mais ça c'est quand même venu un peu plus tard, quoi. Vraiment d'aller au bout de ma réflexion et de me dire, mais finalement Moi, je suis plus à l'aise dans le documentaire, la toute petite équipe, la proximité, de réinterroger justement tout le dispositif des fictions, de mes propres fictions. On était quand même 25 en équipe technique, c'était très chouette, mais tout d'un coup... Moi, à un moment, je me suis dit, mais en fait, ça me va pas, quoi. J'ai envie d'être dans un plus petit comité. Mais en même temps, ça c'est quand on cherchait l'argent, j'en étais pas encore complètement arrivé là, quoi. Mais
donc ça, c'était un handicap pour trouver un distributeur. Et donc, vous en avez trouvé un finalement. Ça a duré combien de temps ?
Du coup, à un moment, je me souviens plus exactement, mais je sais qu'à un moment, justement. Voilà, avec les distributeurs qui voulaient pas lire, Gilles m'a dit, mais je crois qu'il faut qu'on aille vers des petits distributeurs. Je crois qu'il était un peu embêté de me dire ça parce que du coup, ça voulait dire, petits distributeurs, donc des petits films, petits. Et
qu'on du mal à vivre, quoi.
Et moi, en fait, ça m'a pas du tout perturbé. Je lui ai dit, mais en fait, moi, je trouve ça assez cohérent, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis une petite réalisatrice. En fiction, t'es un petit producteur. On va aller voir un petit distributeur. Mais en plus, moi, je me disais, ça veut dire aussi qu'il y a un contact. Plus certainement plus facile et qui correspond aussi plus à ma personnalité où moi j'ai besoin justement de parler vraiment avec les gens et pas d'avoir 150 000 intermédiaires et UFO distribution même chez les petits distributeurs, je crois qu'UFO distribution, je pense que c'est les seuls qui l'ont lu. Donc même là, c'est les autres, on n'a jamais su s'ils avaient lu et pas aimé ou carrément pas lu. Bon, on ne le saura jamais. Et UFO, ils ont dit, c'est deux associés et y en a un qui a bien aimé, qui a voulu nous rencontrer. On s'est fait un rendez-vous à Paris, du coup, parce que ça, c'est à Paris, les distributeurs. Et donc, on a échangé, c'était vraiment intéressant. C'était quand même très, très aussi sur un discours. Ouais, mais tu sais, ton film est vraiment pas drôle. Tu sais, les exploitants, maintenant, ils aiment bien que ça finisse bien et tout. Je dis, c'est mon projet, c'est mon histoire. Je vais pas réécrire le film pour les exploitants, quoi. C'est comme ça. Et finalement, ils ont décidé de s'engager. Donc, ça a permis, par exemple, de pouvoir l'envoyer à Canal+, ce qu'avant, on pouvait pas faire, parce qu'on n'avait pas de distributeur. Voilà, il y avait quelqu'un à Canal+ qui aimait bien le projet, qui a même accepté de nous rencontrer, ce qu'ils font rarement, parce que justement, ils ont peur que du coup, le réalisateur s'emballe en disant « Ah putain, j'ai Canal !» Donc, c'est pareil, il a plein de mises en garde, genre « C'est pas parce que je vous accepte dans mon bureau que ça veut dire que c'est OK ». Là, elle nous a expliqué que là où on en est aujourd'hui, c'est que la case film d'auteur, c'est la case du mardi soir, je crois, qu'ils aident genre 25 films par an. Et que sur les 25, il y en a à peu près 22 qui finalement sont squattés pour prendre par un peu des vieux de la vieille qui n'arrivent pas à avoir des financements ailleurs. Donc des Jean-Luc Godard, des Benoît Jacquot, des Doyon, des Garrel. Et que Canal+, enfin, ce que je comprends tout à fait, a envie d'aider parce qu'ils trouvent que c'est un cinéma qui doit encore exister. Mais ce qui fait que du coup, il reste trois.
Ça laisse peu de place, du coup.
Là, il restait, elle nous a dit, il reste deux, trois cases pour. Et elle a été très claire, elle a dit, de toute façon, du coup, maintenant, on est aussi un peu dans une envie de que ces deux, trois cases-là, qui sont plus pour des premiers longs.
Soit des succès, quoi.
Ouais, et des comédies. Et alors ça, c'est Gilles qui sait, moi je ne maîtrise pas trop, mais du coup, il y a eu quand même un engagement des... Ça, c'est assez chouette, il y a eu un engagement des télés bretonnes, TV Rennes notamment, qui a dit, mais moi j'ai envie que le film il existe. C'est pas a priori dans notre fonctionnement d'aider des longs métrages, c'est pas... Mais voilà, on va se débrouiller pour... Donc je ne sais plus, après moi je ne connais pas les chiffres et tout ça, donc c'est forcément pas du tout les mêmes sommes que Canal+, mais en même temps, voilà, c'est quand même un engagement de gens qui disent on veut que le film existe. Donc ça, c'était pas mal, quoi. Après, on a tenté toutes les Sofika, on s'est pris des râteaux partout. Voilà. Et après, il y a eu effectivement tout ce coprod
Non, c'est-à-dire tout ce coprod, faut être clair. Tout ce de toute façon, moi j'avais des gens, des potes et tout, qui connaissent rien, qui m'envoyaient des messages, qui me disaient « Mais alors, si t'as pas l'argent, le film, on l'aurait fait. » Là où on en était, le film, on l'aurait fini, quoi. Là, on n'était plus... de toute façon, on était engagé avec le distributeur, on était engagé avec le CNC. Enfin, le film, on l'aurait fait. Sauf qu'on l'aurait vraiment... torché à la post-prod parce qu'on avait... Ou alors, on aurait demandé encore plus d'efforts à tous les gens qui ont travaillé à la post-production qui déjà, financièrement, faisaient plein d'efforts. Après, il y a quand même un autre élément super important dans la production, c'est qu'il y a AGM Factory, studio de post-production qui s'est installé, qui était en région centre et qui est venu s'installer à Rennes. Vraiment pendant
bon moment, ouais.
Ouais, au bon moment, exactement au bon moment. Et Yann Le Guay d'AGM Factory et Gilles, ils s'étaient rencontrés au Festival de Cannes et voilà, ils avaient discuté et tout ça. Et du coup, Yann avait dit: mais moi, je m'installe, ça y est, c'est décidé, j'installe mon studio à Rennes. Et il avait proposé ça de rentrer en coproduction sur le film, quoi. Et là, tout d'un coup, justement, ça voulait dire qu'on pouvait faire toute la post-production à Rennes, ce qui était formidable. C'est-à-dire que le mixage, par exemple, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long que prévu. Donc, heureusement que tout ce coprod, là, justement, nous a bien aidés. Mais même là, c'était pas suffisant. Donc, AGM, ils ont toujours fait en sorte que, voilà, de nous dire: bon, bah, c'est bon. La clé, vous passez le week-end dans le studio, enfin, ils nous ont arrangé 150 000 coups. Si on avait été en Belgique ou même à Paris, je veux dire, là, tu as le studio de mixage, de si tu es en journée, ça s'arrête à 18h ou à 19h, je sais pas quoi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient mixer la nuit. Et tu fais pas, ouais, en fait, j'aimerais bien rester jusqu'à minuit, quoi. Tu sors, hein, tu dégages, tu te tais, et puis zou, quoi. Ou si tu restes, tu signes le gros chèque. Enfin, voilà, là, on n'était pas du tout là-dedans. Donc, c'était super. Du coup, toutes les questions de production et tout, ça a été long. Donc, l'avance sur recette, c'est 2008. Nous, on a tourné en, voilà, l'automne 2011, quoi. Donc, mais toute la période où, du coup, c'était surtout Gilles qui bossait, parce que moi, j'ai réécrit des versions de scénario, mais bon, bref, globalement, j'étais plutôt dans la question de voilà, quel film je veux et tout. Et c'est vrai que j'ai passé plein de temps, justement, à réinterroger, voilà, c'est quoi une fiction, c'est quoi un tournage, qu'est-ce que j'aime, dans quoi je me sens bien. Aussi, il y avait eu un truc rigolo, c'est qu'à un moment, je suis passée en commission en région centre ou en région Aquitaine, je ne me souviens plus trop. Et là, il y a un réalisateur qui était dans le jury, là, et puis il me dit: ouais, moi j'aime bien le scénario et tout, mais vraiment, là, cette fin, là, ce truc de voiture, là, l'autoroute à l'envers, il me dit: non, mais ça, c'est absolument n'importe quoi. Et il me dit: mais là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous avez envie de faire un film très réaliste, très, très simple, voilà, une petite histoire, des petits personnages et tout. Il me dit: et là, j'ai vraiment l'impression que, avec ce truc de la fin, vous voulez justement vous la jouer.
Spectaculaire.
Ouais, spectaculaire. Du coup, vrai réalisateur, quoi. Genre, voilà, genre.
Moi aussi, je peux faire des vraies scènes d'action. Voilà.
Genre carte de visite.
Et alors, donc il me dit: bah, moi, je comprends pas et tout ça. Et ce qui était assez marrant, quoique embêtant, parce que du coup, j'étais vraiment très emmerdée pour lui répondre, c'est qu'en fait, c'est quand lui, il m'a dit ça, mais vraiment, que j'ai pris conscience. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du bordel que j'avais écrit, quoi. Je pense qu'avant, j'en avais déjà eu un peu conscience une fois, parce que justement, on avait demandé à un premier assistant de faire un plan de travail pour pouvoir faire le budget. C'est comme ça qu'on était arrivé à ces fameux 3 millions. Que moi, je me souviens que les plans de travail, il y a ces trucs en colonne et tout. Et que du coup, il y avait tout qui était en... Voilà, tous les personnages étaient listés, les véhicules, les trucs. Et déjà là, moi, j'étais là, je me disais: mais c'est quoi ce truc, quoi? Je lui disais: mais le camion, mais quel camion? Il me disait: ouais, c'est quand 62, t'as un camion. Et déjà là, je m'étais dit: mais c'est quoi ce bordel? Enfin, moi, je reconnaissais pas mon truc, parce que pour moi, c'était l'histoire d'Audrey, elle faisait ci, elle faisait ça. Et donc, pour moi, c'était pas une liste de personnages, une liste de véhicules, enfin, ça marchait pas. Donc déjà, j'avais eu un petit moment où je m'étais dit « Waouh, c'est quoi le truc que j'ai écrit là ?» Ça n'a pas l'air simple. Et alors après, avec le coup du mec là, qui me dit que tout d'un coup, j'ai vraiment envie de jouer le réalisateur, je ne sais pas quoi, qui fait genre « Attention, moi, vous croyez que je fais du film social et réaliste mais non, pas du tout. Hein, » Enfin, vraiment, moi, c'est quand il m'a dit ça, je me suis dit « Ah putain, mais c'est vrai que ce truc de bagnole, là, mais comment je vais faire ce machin ?» quoi. J'avais pas...
Parce que, en plus, jusqu'alors, on va dire, tout se goupillait plutôt bien, on va dire, contre tes désirs de mise en scène qui sont... J'ai l'impression que tu redoutais quand même justement l'inertie de la lourdeur, de la machinerie, etc. Et que t'avais vraiment un peu... J'ai l'impression, en tout cas, que t'avais envie d'être dans une dynamique un peu plus... documentaire entre guillemets. Hein.
Moi, je crois. Non, je pense que ça, c'est vraiment après quand moi je suis allée au bout justement
de ta logique.
Quand je me suis vraiment posé toutes les questions avec l'autre qui m'a un peu déclenché un truc, genre waouh, mais en fait, c'est quoi mon projet là ? Qu'est-ce que je fais ? C'est là que je me suis vraiment dit, mais en fait, ah ouais, ça veut dire que moi j'ai besoin de temps, puisque je suis lente, je l'ai déjà dit. Donc je veux un tournage long, mais un tournage long avec une grosse équipe. Enfin, tout d'un coup, tout ça, je me disais, mais en fait, non, je vais pas y arriver. En fait, je me suis dit, je vais pas être bien, c'est pas ça qui me va. Donc c'est aussi en me posant la question de mon rapport aux comédiens et tout ça, que je me suis dit, mais oui, moi, je suis plus à l'aise dans la démarche documentaire, une petite équipe, être proche des gens, faire avec ce que avec ce qui se passe et s'en servir, c'est plus mon truc. Donc, ce qui fait que j'étais quand même allée dans un délire, genre, on faisait ce film à trois, quoi. Donc voilà, il y avait moi, quelqu'un au son et quelqu'un à l'image. Après, mon grand modèle, c'était Samuel Collardet, L'Apprenti, qui est pour moi un film absolument génial. Et donc, du coup, j'avais même contacté Samuel Collardet, je lui ai posé 12 000 questions sur comment il avait fait et tout. Sauf que c'était complètement idiot, parce que lui, L'Apprenti, c'est vraiment entre le documentaire et la fiction. En plus, lui, il est chef-op et réalisateur, donc il peut être dans... Et à un moment, moi, je suis allée m'inventer tout un truc que je pouvais faire L'Apprenti avec mon scénario, sauf qu'en fait, ça ne tenait pas debout, quoi. Mais je pense que j'ai eu besoin de ça pour finalement, à un moment, me dire « je le fais ». Ouais. Et donc, j'ai un moment, j'ai écrit une lettre à Gilles Padovani en disant « écoute, voilà, moi, j'ai réfléchi à tout ça. En dehors de la question de l'argent et tout ça, le fait est que, de toute façon, moi, ce film, je veux le faire avec une petite équipe. Je veux avoir du temps, je veux ci, je veux ça. Enfin, je lui ai dit aussi, je veux faire ce film, parce que ça faisait quand même aussi pas mal de temps que je me disais, il y a un moment, il faut savoir ne pas faire les films plutôt que les faire mal ou faire des sous-films ou je sais pas quoi. Donc, je m'étais vraiment préparée aussi à me dire, faut qu'à un moment, je sois capable de... Même si j'ai passé des années, faut que je sois capable de lâcher ce truc. Et sauf que là, à un moment, je me suis dit, non, mais non, j'ai pas du tout envie de lâcher ce truc. Parce que c'est important que je raconte ça. Et puis parce que, ouais, j'y ai passé des années et que c'est peut-être con comme argument, mais ça ferait quand même super chier qu'il n'existe pas. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit aussi tous les films que j'ai vus ces dernières années qui m'intéressent le plus, c'est justement des films qui sont faits comme ça, dans des économies modestes, dans des petites équipes. Donc, il faut qu'on se mette dans cet état d'esprit-là et allons-y, quoi. Et ça tombait bien, puisque de toute façon, il y avait vraiment... on n'était pas allé au bout de la question des financements, mais je pense qu'aussi, moi, je savais qu'on était quand même un peu dans la merde, quoi. Donc, ça devait forcément jouer dans mon inconscient. Ouais.
Plein de gens qu'on connaît pas qui déboulent, ça va être...
Tu veux une bière ?
Ouais, je veux bien.
Tu te poses les deux, toi. Ouais, ça va. Bravo. En fait, il n'y a pas trop de risques. En plus, si on commence à se faire connaître un petit peu, les gens vont savoir qu'on gère.
On est en squat politique, c'est normal qu'on fasse aussi des débats ou autre chose que des concerts. C'est
ouais, mais t'as vu, comment ça se passe, les débats ? Ça débat pas du tout, en fait. Les gens sont contents d'être d'accord ensemble.
Mais si on fait un débat et après un concert, ça va amener du monde et ça va faire du mouvement, quoi.
Non, mais bien sûr, mais après, le côté politique du squat, c'est rien que le fait d'habiter ici, c'est un acte politique, en fait. Après, ouais,
je suis bien d'accord.
Enfin, je voulais pas tourner à Rennes du tout. J'avais envie d'être ailleurs parce que j'y habite, parce que je trouvais que ça raconte aussi l'histoire d'un personnage justement qui est obligé d'aller ailleurs et qui découvre un peu un ailleurs et que je trouvais ça je trouvais que moi, justement, j'allais pas. J'avais envie de pouvoir être un peu comme mon personnage, d'aller tourner dans une ville que je connaissais pas bien et où j'allais pouvoir me dire. Ah bah tiens, cette rue, c'est
nouveau.
Voilà. Et moi, je me disais, ma reine, même si je ne suis pas originaire de là, ça fait quand même un paquet d'années.
Tu maîtrises trop l'espace et du coup, tu n'as pas la...
Et ouais,
t'as pas ce regard neuf, en fait, sur les choses.
C'est la même chose que pour les comédiens, finalement, quoi. Où on peut se dire qu'un comédien pro, je ne sais pas arrive avec quelque chose qui est...
Moi, je voulais... Et puis aussi, je pense aussi qu'il y avait un autre truc, c'est que moi, pour... traînouillée depuis un paquet d'années, justement dans tout le milieu audiovisuel breton et tout. C'est aussi un truc qui, très souvent, me saoule un peu, le côté on fait des films chez nous, avec les gens de chez nous, pour les gens de chez nous. Enfin, des fois, je trouve que c'est quand même un peu ras du bocal, quoi. Enfin, le côté comme ça, genre, au-delà de la gravelle, personne ne peut comprendre ce qu'on dit parce qu'on est breton et tout. Et moi, je supporte pas. Puis il y avait une dimension un peu ambitieuse aussi, qui était de dire, je veux que ce film, ce soit un film qui va partout. Et j'avais peur d'être enfermée, justement, dans un truc. La bretonne, le producteur breton, il fait un film en Bretagne. Enfin, c'était un truc qui me plaisait pas du tout, quoi. Donc je voulais aller ailleurs. Gilles était tout à fait prêt à ça, d'ailleurs. Mais sauf que pour aller ailleurs, fallait qu'on ait de l'argent d'autres régions. On n'en avait pas, quoi. Et le seul truc que j'ai réussi à négocier, c'est je lui ai dit d'accord, mais je lui ai dit le squat, je veux pas être là. Il y avait une dimension un peu irrationnelle là-dedans, mais je voulais pas, je pouvais pas. Ça, c'était dans mon histoire à moi. Et j'avais besoin d'être ailleurs, je voulais pas rentrer tous les soirs chez moi, je voulais être dans une espèce de bulle un peu comme ça. Mais Gilles, comme justement on se connaît bien, qu'on s'entend bien et tout ça, il a très bien senti que si j'avais cette exigence-là, c'était pas un caprice, pour faire oui, bah, comme tu veux ça, bah, moi je veux ça, gna gna. Que voilà, il s'est dit, bon, là, je comprends pas forcément pourquoi, mais ça a l'air important. Donc, alors c'est vrai que moi j'étais beaucoup plus à me dire, on va faire trois quarts du film ailleurs et un quart ici. Et puis bon, finalement, on est arrivé à ce truc, ça a été trois quarts ici et seulement un quart à Caen. Et donc, vraiment, que le squat et toutes les séquences qui sont autour du squat. Mais on a réussi à faire ça, parce que c'était important.
Et pour le tournage de Rennes, c'est un truc que... vous avez des problèmes quand même, notamment avec la fac de Rennes 2.
Ça, c'est drôle, parce que quand Gilles, à un moment, m'a dit « Écoute, on ne pourra pas faire le film ailleurs. Enfin, on ne peut pas aller faire tout dans une autre ville. On n'a pas... Voilà, on ne peut pas, ce n'est pas possible. » Il dit « Il faut qu'on tourne ici. » Moi, au début, j'étais là, non, je veux pas. Puis bon, après, je me suis dit, bon, de toute façon, faut que je réfléchisse. Et donc, j'ai réfléchi à ce que ça voulait dire, que peut-être justement, j'étais un peu en train de bloquer sur des trucs. Et là, je me suis dit, je suis un peu con quand même, parce que finalement, par exemple, Rennes 2, je connais tous les profs, enfin, je connais plein de profs là-bas. J'y ai travaillé 6 ans. J'étais intervenante en atelier, en art du spectacle.
Ouais.
Donc voilà, c'est mais tu n'as jamais eu.
Non, j'avais voulu faire mon petit malin en me disant je prends un atelier documentaire, Bénédicte, elle va s'occuper du documentaire. Et non, forcément, elle s'occupe de la fiction et pas du documentaire.
Donc,
je me retrouve avec une vieille folle qui s'occupe du documentaire et qui m'explique que. Bref.
Peut-être faire des amis encore, toi.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Mais vrai, donc, Rennes 2.
Donc, je me suis dit, c'est vrai que Gilles. Parce que Gilles, il mettait ça aussi en avant. Il me disait, mais tu sais, justement, quand on n'a pas beaucoup d'argent, comme c'est compliqué, il me dit, ici, on connaît plein de gens, il y a plein de trucs qu'on va pouvoir. Faire plus facilement parce qu'il y a du relationnel. Il me dit, si on va à Tours, on connaît personne, ça va être plus compliqué. Donc, d'accord. Et là, je me dis, par exemple, Rennes 2, c'est super parce que Rennes 2, je connais tous les bâtiments. C'est vrai qu'en plus, moi, je pensais à Rennes 2 quand j'écrivais. Mais je voulais pas y tourner, mais c'est parce que je suis bien obligée d'imaginer justement des lieux, des situations et tout. Puis tout d'un coup, je me suis dit, bah oui, mais en fait, c'est vrai, ouais, le hall B, mais évidemment, c'est là, ouais, ça va être super. Et puis du coup, comme j'étais déjà à fond dans mon histoire, on tourne à l'arrache, je me disais, ouais, je pète mes deux comédiens dans un coin, voilà, on prend la caméra, youpi, on tourne les trucs. Donc je me suis dit, c'est vraiment cette idée, c'est vraiment partie de ma réflexion sur Rennes 2. C'est ça qui m'a aidé à me dire, en fait, tourner à Rennes, finalement, ça peut être pas mal, quoi. C'est là que j'en suis arrivée à dire que pas tout, mais que ça pourrait être vraiment bien, quoi. Et voilà. Et le truc délirant, enfin, pour moi, délirant, c'est que, voilà, c'est qu'on a pu, à l'arrivée, faire quasiment tout ce qu'on voulait, pas tout. Mais voilà, on a pu bloquer une autoroute, on a tourné dans la prison des femmes, on nous a ouvert des cellules, enfin c'était quand même assez tout ça sans quand même beaucoup de moyens et tout ça. Et ce qui a été impossible, c'est de tourner à Rennes 2.
On peut bloquer l'autoroute, mais on peut pas bloquer Rennes 2. Ça n'existe pas, bloquer Rennes 2.
Tourner à Rennes 2, on ne peut pas tourner à Rennes 2 un film politique parce que voilà, parce que
c'est politique.
Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça a été un... Enfin, voilà, moi, j'ai pas du tout...
Vous avez pas pu tourner à Rennes 2 parce que la fac de Rennes 2 a refusé de tourner à Rennes 2.
Mmh. Enfin, le président de l'université, mais aussi... Enfin, bon, lui, il est très content de dire que, justement, c'était dans... Il m'a dit, c'est dans mon pouvoir de pouvoir dire oui ou dire non. Eh bien, je dis non, et de manière définitive.
Je connais des gens comme ça.
Ouais. Ce sont ses propres termes. Et voilà, et c'était... impossible de dialoguer. Voilà, il me disait, mais voilà, Rennes 2 a une très mauvaise image. Ce film ne va faire que justement perpétuer cette image négative. Alors que moi, tout mon travail, c'est justement de changer l'image de Rennes 2. Donc moi, je lui disais, mais on sait même pas que c'est à Rennes 2. On sait même pas que c'est à Rennes. Moi, je voulais même pas tourner à Rennes. Donc je veux pas qu'on sache qu'on est là. Alors il me disait, mais alors pourquoi vous m'emmerdez? Enfin, il me disait pas comme ça, mais il disait, bah, du coup, allez tourner ailleurs. Puis je disais, mais je veux tourner là. D'abord, j'ai travaillé 6 ans. Il y a un département d'art du spectacle. Il y a certainement moyen, justement, d'y associer des étudiants. Et je connais super bien les locaux. Et la prof de socio, qui est d'accord pour tourner dans le film, elle est ici. Et puis, mon étudiante, elle est étudiante en socio. Donc c'est là, quoi. Et c'est pas ailleurs. Mais bon, c'était absolument impossible de se faire entendre, quoi. Lui, son obsession, c'était qu'il fallait il fallait que je tourne ailleurs, quoi. Et puis j'ai essayé de lui expliquer que moi j'avais l'ambition de faire du cinéma, c'est-à-dire de l'art. Après, peut-être je fais de la merde, mais ça c'est mon problème. Mais que c'est cette ambition-là. Et que du coup, c'est pas de la communication, et que si on confond l'art et la communication, il y a quand même un problème. Mais là, je pense qu'il comprenait même pas ce que je disais, quoi. Et donc c'était complètement aberrant. Et c'était vraiment à cause du sujet du film, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça super choquant, quoi, qu'un endroit où, a priori, c'est un lieu, normalement, du savoir, de la réflexion, de l'intelligence. Enfin, pour moi, ça reste encore ça, une université, mais je pense que là aussi, je dois être lente sur le... Eh ben, que la réponse à ça, ce soit un truc où on veut se couvrir, on veut se protéger, on sort le parapluie, on veut pas réfléchir... Ben, j'ai trouvé ça aberrant. Et moi, je lui disais, mais au contraire, je veux dire, ce film, il pourrait servir à une réflexion intéressante sur c'est quoi justement être étudiant aujourd'hui, c'est quoi trouver sa place, c'est quoi la société dans laquelle on est, et Rennes 2 devrait pouvoir interroger ça. Mais là, waouh, j'étais partie sur un Neptune, donc voilà. Donc j'ai tourné à Rennes 1.
Ça t'intéresse pas la politique?
Tiens, Julia m'a posé exactement la même question. Non, ça m'intéresse pas.
T'as déjà fait des grosses manifs ou pas?
Bah ouais, l'année dernière j'en ai fait une et j'ai trouvé ça nul. On nous prenait pour des moutons, fallait aller de là à là, fallait crier ça.
Il n'y avait pas d'AG pour décider des actions?
D'AG?
d'assemblée générale.
Je sais pas. Bon, de toute façon, je trouve que ça sert à rien tout ça.
Tout ça quoi?
Bah les manifs, les grèves.
C'est-à-dire que tu cautionnes quoi?
Que je cautionne quoi?
Bah tout. La société, le système, enfin si on fait rien, ça veut dire qu'on cautionne.
Bah non.
Bah si. Ça te révolte pas toutes les injustices?
Mais si, bien sûr, mais je vois pas. Enfin, je vois pas.
Mais il y a que collectivement qu'on peut faire bouger les choses. La politique, ça permet de conscientiser les gens. Mais tout le monde est révolté dans son coin. Attends, mais comment on fait croire aux gens que les choses peuvent pas changer? Mais personne ne bouge.
Personne ne bouge. Dans la fac, elle est en grève tous les ans, il y a des manifs tout le temps et personne ne bouge.
Mais oui, mais c'est tout le temps les mêmes qui bougent. Il faudrait une grève générale pour immobiliser le pays. Dans le privé, les salariés, ils se font écraser. Mais s'ils ont le malheur de se révolter contre cet écrasement, bah, ils sont virés. Et ça, c'est dégueulasse.
Ma mère a dit que le monde a toujours été injuste et qu'il le sera toujours, c'est comme ça.
Ta mère. Mais toi, tu penses quoi, toi?
Bah, alors, le truc, c'est que du coup, moi, j'étais dans mon... J'ai été là-dedans longtemps, peut-être trop longtemps même. J'étais toujours dans mon délire, justement. Waouh, je vais faire l'apprenti. Voilà, j'ai... Et enfin, je sais pas si vous avez vu l'apprenti, mais bon, l'apprenti, c'est quand même voilà, c'est un apprenti paysan qui est chez un paysan, et Samuel Collardet, il avait un scénario, mais son principe, c'est qu'il allait une semaine par mois voir le vrai apprenti et le vrai paysan qui était dans la vraie vie en train de vivre quelque chose. Et lui, il faisait un peu le point sur où ils en étaient, chacun de leur côté, puis l'un et l'autre, et il faisait avancer le film comme ça. Donc du coup, il n'y a pas de texte. Ce que disent les gens, c'est vraiment ce qu'ils pensent au moment où ils en sont. Et moi, vraiment, c'était mon modèle, et je voulais vraiment retrouver un peu ça. Donc, je pense que j'ai passé pas mal de temps pendant toute la prépa à me dire que j'allais un peu travailler comme ça. Sauf qu'en fait, quand le tournage a commencé, je me suis assez vite rendu compte que, enfin, qu'il y avait une ambivalence dans mon cerveau qui était pas possible quoi. Bah, c'est-à-dire que c'était hyper écrit, tout était dialogué, je voulais absolument que tout le monde dise ce qui était écrit, et en même temps je voulais faire l'apprenti, donc c'était juste totalement incohérent. Donc j'ai vraiment ramé au début du tournage, parce que je me prenais en pleine gueule cette ambivalence là. Je voulais que le chef-op, justement, soit dans une espèce de truc, va saisir ci, va saisir ça, mais en même temps, j'ai installé des trucs hyper fixes où il n'y avait rien à saisir, puisque je dis, maintenant, toi, tu dis ça et pas autre chose.
Je suis fière de toi, comme une pute de son Mac. Je me colle à toi, même si ça me fout le trac. Je ne suis pas encore sortie de ma réserve, une fleur prête à éclore. Petite frappe qui s'énerve, je te couvrirai de pétales. Je te garderai, je suis ton chien, ta chose. Je t'attacherai avec sept cheveux rouges. Notre propre piège se resserre si tu bouges. Cogne-moi, les mots que tu me dis me cognent. Bah, tout le monde aux abris, tu dis mon amour. Et c'est un coup de poing, ça me coupe le souffle. Soulève-moi. Je suis fière de toi, comme une pute de son Mac. Je suis à genoux, viens amour attaque. Tes larmes et ta sueur sans l'encens et le miel. Crache-moi dessus mon cœur et je monterai au ciel. Je te couvrirai d'or et des diamants. Oui, je veux sentir cette pointe d'argent. J'embrasserai le trottoir sous tes pas. Le seul choix dans la vie, c'est d'en avoir ou pas. Cogne-moi, les mots que tu me dis me cognent. Bah, tout le monde aux abris, tu dis mon amour. Et c'est un coup de poing, ça me coupe le souffle. Ah, soulève-moi. Ah, soulève-moi.
me ferai une bouche écarlate, des cheveux de feu et des ongles de lac, la pointe de ta lame doucement sur la joue. Oh, écrase-moi dans la boue, je suis fière de toi, comme une pute de son Mac. Je veux tout de toi, les caresses et les claques. Tu déverses sur moi, lors de ta rivière, je suis toutes tes femmes. Depuis la toute première, cogne-moi les mots que tu me dis, me cogne pas. Tout le monde dans un bruit, tu dis mon amour, et c'est un coup de poing, ça me coupe le souffle. Cogne-moi les mots que tu me dis, me cogne pas. Tout le monde dans un bruit, tu dis mon amour, et c'est un coup de poing, ça me coupe le souffle.
Alors, Elie Medeiros, Soulève-moi. Voilà, Elie Medeiros, c'est juste la classe internationale, moi, je trouve. Elle est magnifique, elle joue super bien, elle chante super bien, elle fait de la musique super. C'est la femme de Brian De Palma, le dernier film de Brian De Palma est pas terrible, mais c'est pas grave. Non, et puis j'adore ce morceau, et j'adore tout son dernier album, là, qui date de 2007, je crois, où elle est en photo sur la pochette, et son torse nu, où elle cache juste ses seins, elle est absolument magnifique, elle a plus de 50 ballets, moi je dis bravo.
Soulève-moi.
Moi j'avais vraiment compris en rencontrant Pauline Parigot, et c'était une espèce d'évidence.
On l'a pas encore cité d'ailleurs.
Bah ouais, c'est pour ça que c'était évident que c'était Audrey, que c'était l'Audrey que je cherchais, c'était elle, elle était formidable, enfin c'était évident. Et ce qui me plaisait, entre autres, chez elle, c'était que justement, elle avait une forme d'insouciance qui était... parce que son bac, c'était vraiment super récent, qu'elle était toujours un peu là-dedans. Et par contre, justement, elle me disait « Ouais, mais Audrey, là, quand elle va au Graal et tout, là, c'est un peu bizarre quand même. Qu'est-ce qui lui prend ?» Et ça, je me suis dit, justement, il faut que j'apprenne elle, parce qu'elle est super. Et il faut que je tourne dans la chronologie, parce que... Parce que justement, cette insouciance qui est nécessaire au début du film, elle l'a et elle va être super. Et après, la suite, en fait, elle va le vivre. Mmh. Bien sûr, elle sait qu'elle joue et tout, mais elle va le... Voilà, ça, en fait, on va faire un chemin... On va faire un chemin ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il fallait tourner. Faire jouer l'insouciance, ça doit pouvoir se faire, mais c'est en même temps, ce sera un jeu, quoi. Ouais. Mais justement, avoir ça qui est là, quoi, et puis par contre, justement, que le film, que le tournage, que le travail ensemble, ce soit le même parcours que le personnage, c'est sûr que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et du coup, quand j'avais fait, là, pour revenir sur j'avais réuni tous les gens du Graal, parce que c'est le nom du squat. Et je leur avais demandé de lire des trucs avant qu'on se voie, de regarder certains films pour qu'on ait un... Parce qu'en fait, du coup, ça veut dire qu'eux, ils n'étaient pas du tout, mis à part certains qui avaient un peu traînouillé dans des squats et tout, mais enfin, la plupart, quand même, ils n'étaient pas du tout dans ces questions-là. Ils n'étaient pas du tout dans les questions politiques. Donc, je voulais quand même qu'il y ait une espèce de culture commune.
C'est le socle de films, du coup, que tu avais choisi, enfin, c'était...
Bah, par exemple, je leur avais demandé de lire l'insurrection qui vient du Comité Invisible. Et parce que c'est un bouquin vachement intéressant et puis que je trouvais que justement pour discuter, c'était vraiment chouette. Je leur avais proposé de regarder Ocupas, qui est un documentaire d'Emma Fernandez. Et qui sur des squatteurs à Madrid, mais où là aussi il y avait un peu une vie quotidienne de ce que c'est qu'un squat, la question justement d'ouvrir, de fermer des verrous, des trucs, enfin des choses justement très très concrètes que je trouvais super importantes.
Et pour revenir sur le personnage de Audrey, qui est quand même, du coup, par rapport à tout ce qu'on disait sur le film qui pose une question du politique ou de comment on est au monde quand on va, on a une interrogation, on vit de le changer ou comment on se place en retrait ou je sais pas quoi. C'est vrai qu'Audrey, finalement, pendant tout le film, c'est une sorte de personnage regard, finalement. Elle rentre en contradiction quelquefois avec quelques personnages comme ça en les mettant en face de leur contradiction,
mais finalement c'est pas quelqu'un qui théorise ou je sais pas quoi, c'est finalement plutôt un personnage mutique. Enfin, je sais pas si au niveau de l'écriture c'était un choix dès le départ ou c'est quelque chose qui s'est imposé comme ça, où tu t'es rendu compte que d'un coup c'était voilà une sorte de Candide quelque part, parce qu'il y a un côté récit initiatique, ou comment ça s'est fait?
Bah, moi, ce que je savais, après, sur le côté justement mutique et tout ça, non, ça, c'était pas si, si clair. Mais moi, ce que je savais, c'est que c'était justement un personnage, enfin, mon envie et tout ça, c'est que c'était plutôt un personnage spectateur, mais que justement, c'est un personnage qui allait passer de spectateur aussi à acteur. Et donc, moi, j'assumais totalement sa passivité, alors que justement c'est quelque chose mais qui était mais reproché mais systématiquement toutes les commissions c'était mais en fait on comprend pas qui c'est, elle pense rien et on la sent pas et tout, et moi j'arrêtais pas de dire non mais voilà, je me disais oui mais à un moment elle va être incarnée, enfin j'avais une espèce de certitude comme ça que oui c'était possible mais à condition de trouver la bonne comédienne. Mais en même temps, enfin, quand tu dis ça justement à des commissions, c'est tellement évident qu'ils vont trouver le bon comédien pour faire le rôle que c'est comme si tu disais rien. Alors que là, ça avait presque plus de sens parce que moi je me disais justement, c'est pas. Des fois dans les commissions, les gens disaient ouais, mais peut-être ce serait plus intéressant s'il était rebelle dès le départ. Et moi je disais mais non, mais je veux pas du tout. Justement, c'est quelqu'un qui se pose zéro question. Voilà, il y a papa, il y a maman, il y a la maison.
L'aspect initiatique permet justement, innocent, permet au spectateur aussi de pénétrer beaucoup plus dans cet univers en même temps. Donc,
bah oui, moi c'est ce que je défendais, mais en même temps c'était super difficile. C'était super difficile de faire entendre ça, quoi. C'était vraiment pas facile du tout, quoi. Et même maintenant, là que le film est fini, justement, il y a des gens que ça dérange, qui disent ouais, mais en fait, voilà, elle se fait embobiner, elle est hyper passive. Alors que pour moi, c'est pas. Voilà, elle a 18 ans aussi. Moi, je veux dire, j'avoue,
ouais, c'est curieux parce qu'on voit quand même un personnage qui avance tout le temps.
Bah oui,
tout le film.
Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Sur un temps court quand même. Moi, c'était presque plus ça qui m'effrayait parce que je me disais en même temps, il se passe pas un temps fou, quoi. Et c'est sur quelques mois, quoi. Donc, entre le début et la fin, il s'est pas passé beaucoup de temps. Donc, au contraire, elle a fait tout un parcours. Et moi, je sais que c'est. Enfin, ça, en écrivant les notes d'intention, les trucs et les machins, je m'étais rendu compte de ça. Je m'étais rendu compte que c'est aussi quelque chose qui, moi, m'intéresse vraiment beaucoup. C'est les personnages spectateurs. Enfin, voilà, les deux trucs que je cite à chaque fois, c'est justement Juillet de Diénion, qui à la fois a provoqué ma rencontre avec Gilles Padovani, mais qui est un film que vraiment j'adore par-dessus tout. Voilà, c'est des personnages spectateurs. Et l'autre film qui est important, c'est Bépi de Johan van der Kocken.
Oui, tu me regardes, parce que j'ai toujours pas vu aucun film de Johan van der Kocken.
Là, c'est une petite fille et tout, donc c'est différent. Mais il passe son temps à justement la montrer en train de regarder, quoi. En train de justement, comme ça, les yeux écarquillés, en train de regarder. Et c'est vrai que oui, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, quoi. Je pense que il y a aussi des choses qu'on a virées au montage. Elle parlait un peu plus. Il y a un moment où finalement on a décidé avec la monteuse que ça allait plus se jouer dans des regards et tout ça que d'être vraiment formulé. Après, justement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'en même temps, elle dit des choses, quoi. Enfin, quand elle va glaner au marché et que les autres lui disent ouais mais le travail c'est pourri, c'est une aliénation et tout ça, et qu'elle a dit bah ouais, moi je trouve une forme de liberté à gagner mon propre fric, enfin ça c'est elle qui le dit, quoi. Quand elle dit à Elena bah ouais tu voles tout, d'accord, mais en même temps si tout le monde vole tout, enfin comment on va, enfin elle dit pas rien, quoi. Après, quand il y a l'expulsion du squat...
Qui est super efficace en termes de mise en scène, déjà, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de l'action... Enfin, en termes d'action... c'est pas un film de robot qui tape dessus, mais en termes de mise en scène, en termes d'action, je veux dire, c'est... d'efficacité, moi, qui m'a vachement surpris déjà à ce stade du film. Et même
parce que Étienne s'est dit, putain, c'est une bonne femme qui réalise.
Mais c'est exactement ce que j'ai dit.
Il y a un côté Catherine Bigelow quand tu fais l'expulsion du squat avec ces flics qui viennent embarquer. Mais en termes, non, mais en termes de prestation d'acteur, parce que finalement, la mise en scène des lendemains reste toujours très sobre. Il n'y a pas d'effet de style particulier, même dans la séquence finale. Dire, on va pas jouer justement dans le spectaculaire, ce dont pouvaient redouter les gens des commissions de production, tout le bordel. Non, on va pas jouer dans le spectaculaire, mais ça n'empêche pas la séquence d'être en elle-même très efficace et assez impressionnante. Et la séquence de l'expulsion du squat, moi, ma surprise justement par ça, c'est le côté un peu brutal justement de la chose, quoi, qui vraiment te saute à la gueule, quoi.
Ouais, mais ouais aussi parce que justement ça arrive tout d'un coup que t'accompagnes ces personnages que du coup c'est
oui, t'embarques voilà. Avec eux et du coup
et puis en même temps du coup c'est un peu chouette dans le squat, c'est chouette et tout, puis clonk, tout d'un coup paf, oui. T'as ça qui surgit et c'est violent, quoi. C'est violent, ça. Ça c'était marrant d'ailleurs, ça c'est, enfin il y a un gros travail aussi de son et tout sur cette séquence, enfin il y a pas que du son mais il y a un gros travail. Ça c'était marrant, moi je voulais absolument qu'il y ait une espèce de son de bélier qu'enfonçait la porte
brutal,
et tout.
Quoi.
Et en même temps, justement en travaillant avec la monteuse, image avec le monteur son et tout, on s'est rendu compte que finalement ça allait certainement être d'autant plus violent d'être avec Audrey qui dort là, et puis que tout d'un coup voilà, en fait c'est juste que ça devrait être silencieux parce que tout le monde dort et en fait il y a des petits bruits, il y a des gens qui sont rentrés et elle tout d'un coup elle se dit mais quoi, qu'est-ce qui se passe et là l'autre qui est plus habitué, Gwen qui a plus de bouteilles et qui a déjà aiguisé, voilà, lui dit ok, ça peut être que les flics, et finalement c'était vachement intéressant. Et après, il y a une vraie brutalité dans les gestes, dans tout ça. Mais c'était intéressant qu'au niveau du son, moi, je voulais absolument un truc qui, tout d'un coup, paf, justement, fasse sursauter le spectateur. Et je me suis dit, mais non, en fait, c'est... Voilà, eux, ils vont au pied de biche, comme eux, ils vont faire juste après. Mais finalement, la brutalité, elle arrive quand ils sont là. Avec les Rangers, avec les matraques, avec les trucs, et que tout d'un coup ils disent voilà, vous prenez tout et vous vous barrez sans explication, sans rien, et que oui, effectivement, mettre un gros son qui allait faire boum boum, c'était finalement pas du tout, enfin ça allait même casser. Ça allait complètement
casser l'attention,
cassé,
en fait,
bien sûr.
Et puis la façon dont le spectateur va lui-même du coup vivre la situation.
Bah ouais.
C'est un carnaval, ça.
C'est pas un carnaval, ils exposent leur... Ils exposent ce qu'ils défendent.
Ils exposent rien du tout, c'est pareil depuis des années, ce sera toujours pareil.
Et bah alors on a qu'à faire...
S'ils sont partis en Grèce, c'est pas pour rien, c'est parce que là-bas, ça bouge.
On l'a fait le Graal, enfin, pourquoi on l'a fondé, c'est bien pour faire quelque chose, c'est pas juste
pour faire des manifs à la con qui servent strictement à rien.
Attends, on peut s'en inspirer, on n'est pas obligé de faire pareil qu'eux. Je suis d'accord que là, ok, c'est pas, ça sert pas à grand chose, mais bah, je sais pas, bougeons moins.
Moi, ça m'épate quand même pour se battre pour travailler.
Je m'emmerde, moi, je me casse.
Moi, le début, je voulais pas vraiment qu'il ressemble à ça, mais après, je l'assume complètement, mais après, je vais pas me mentir, c'est pas...
Le début, donc, entre Nanou et Audrey...
Ouais,
et Audrey,
tout vraiment, c'est les parents, la rencontre
place,
avec la coloc, tout ça, voilà, c'était pas exactement comme ça que j'imaginais les choses. Et après, ce qui était quand même très clair, c'était que je voulais pas qu'il y ait de changement, par exemple, dans la manière de filmer, c'est-à-dire que voilà, on aurait été dans un truc un peu classique, et puis tout d'un coup, quand justement, on est de plus en plus radical, du coup, on se met à sauter partout avec les caméras ou tout ça, enfin, je voulais pas changer de manière, justement, de filmer tout ça, mais je l'avais écrit dans ma note d'intention, et je pense que c'est toujours là, je m'étais dit que ce que je voulais, c'est que ça soit de plus en plus elliptique. C'est-à-dire qu'autant au début, on est dans des choses quand même justement assez explicatives. Après, voilà, après, c'est plus elliptique.
Et puis, il y a un rythme qui s'accélère au fur et à mesure.
Là, je disais, il y a un côté plus elliptique, une accélération qui est pas justement que je voulais. Et c'était aussi dans le traitement du son, où je voulais qu'on soit dans une dimension, j'avais écrit ça comme ça, plus onirique, c'est-à-dire qu'on, voilà, à la fois c'est réaliste, mais il pouvait y avoir une ambiguïté un peu sur justement quelque chose, est-ce que, voilà, dans quoi on est, et puis aussi justement dans les décors où il y avait quelque chose qui était un peu moins réaliste. Mais je sais que par exemple quand on a tourné ce qui est dans la salle de rédaction là où ils foutent le bordel.
Parce que les lendemains mettent le feu à Ouest France.
Hein. Spoiler.
Ça c'est bon.
Et ben.
Je couperai ça au montage.
Et ben je sais que justement enfin j'avais a priori bon je sais pas si ça serait fait ou pas mais la possibilité d'accéder à des vraies salles de rédaction. France 3 avait l'air d'être d'accord, Radio France aussi, enfin ça avait pas l'air d'être complètement impossible. Donc là, ça voulait dire que du coup, voilà, c'était pratique parce que il y avait des vrais bureaux.
Il y avait juste à détruire.
Une vraie bordel sur les bureaux, une vraie vie qui était là. Et moi, je savais qu'en même temps, justement, c'était un truc, je voulais qu'il y ait une dimension justement un peu. Enfin, pas si réaliste que abstraite, ça, quoi. Je voulais que ce soit, qu'on comprenne, hein, que c'est une salle de rédaction, mais qu'en même temps, voilà, il y a une espèce un peu de... Ici, tout ça était un rêve, quoi. Et donc, finalement, à un moment, justement, dans les possibilités, on m'a proposé, justement, d'aller tourner dans une société qui s'appelle Niji, qui est à Cesson-Sévigné, et qui est une boîte d'informatique et tout. Et où, c'est vrai que... Je me suis dit, merde, putain, ça va pas être simple, là, parce que, en fait, ils ont pas du tout de bordel sur leur bureau. Ils ont un petit portable qui s'amène le matin, ils l'enlèvent. Enfin, du coup, c'était quand même un peu tout vide et tout. Et comme nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, l'équipe déco, voilà, c'est une personne. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais en même temps, je me suis dit, tant pis. Évidemment, il va falloir accessoiriser, il va falloir rendre ça chouette. Mais j'avais envie de prendre ce risque parce que je trouvais que voilà cette espèce d'ambiance c'est voilà il y a plein de vitres le côté un peu bocal je trouvais que c'était justement ça correspondait beaucoup plus à là où je voulais emmener le film quoi. Une évolution quand même stylistique entre
oui, c'est marrant, enfin c'est une salle de rédaction mais ça pourrait être c'est une idée du système, quoi.
Oui, c'est ça, ouais.
Vous venez d'écouter notre entretien avec Bénédicte Pagnot à l'occasion de la sortie des lendemains. Cette partie a été consacrée de façon plus précise à son long métrage. Vous pouvez écouter l'intégralité de cet entretien, notamment la première partie consacrée à la filmographie et le début de la carrière de Bénédicte Pagnot sur notre espace blog sur le site de Canal B. Un entretien donc réalisé en compagnie de Vincent Cadoret. Merci mec, merci pour votre écoute. À bientôt.
Moi, je crois que c'est des trucs qui m'intéressent, d'interroger la marge, d'interroger l'utopie, d'interroger tout ça. Mais moi, ça m'intéresse toujours aussi de partir un peu de la dimension justement fantasmée, mythique, et en même temps de confronter ça à une à une réalité qui est voilà, où tout de suite c'est beaucoup plus compliqué.